En effet, merci beaucoup à Delphine Carangeau pour cette invitation à revenir en fait à Versailles-Saint-Quentin où j'avais enseigné il y a une dizaine d'années. Donc voilà, je suis très contente d'être ici et de pouvoir présenter ces recherches récentes sur la signature, donc dans le tableau en gros à l'époque des Lumières au XVIIIe siècle. Et je suis très heureuse de ce duo avec Étienne, qui est un véritable dialogue en fait ancien que nous avons ensemble, enfin tous les deux. Voilà, de la même manière que voilà, on s'est lu pendant toutes ces années un petit peu, on avait commencé à travailler ensemble sur au moment d'un colloque à Berlin sur ces questions d'attribution. En fait, je crois qu'on avait deux points communs peut-être. D'abord sur ces questions histoire de l'art. C'était d'abord le premier point commun. Je pense que c'est peut-être important de le rappeler, c'est l'approche pluridisciplinaire, à la fois historienne de l'art, des emprunts lourds aux sciences sociales, la sociologie, pour moi aussi l'anthropologie de manière assez importante. Je crois que là, il y a quelque chose de commun et qui est, je pense, très important. Et l'autre question commune que nous avions depuis toutes ces années, c'était, qu'est-ce que ça veut dire d'attribuer à un objet un nom? Et quand je dis un nom, c'est vraiment un nom, c'est pas une vie, c'est pas un artiste, mais c'est qu'est-ce que c'est que le phénomène d'attribution. Donc voilà, je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui et puis de pouvoir présenter ce qui est en fait une réflexion collective, je crois, au cours de toutes ces années. Alors, je ne vais pas revenir sur le panorama historiographique qu'a ébauché Étienne. Ce que je peux juste ajouter, c'est que lorsque moi, en tant que 18e, lorsque j'ai commencé à travailler sur la signature, d'abord, c'était à la suite d'une demande d'une collègue historienne, Dominique Margueraz, qui, elle, travaillait sur la signature depuis les pratiques du marché, de l'artisanat, et qui m'a dit, bon alors, dans l'histoire de l'art... Et j'ai dit, bah, écoute, il n'y a rien. En tout cas, sur cette période, il n'y a rien. Et donc, comme moi, je travaillais justement sur les phénomènes de collectionnisme, d'attribution dans l'art, j'ai commencé vraiment à collecter du matériau, des sources, des objets signés. Et c'est comme ça qu'est née cette enquête. L'impression que j'avais au début, en commençant ce travail, c'est qu'en fait, il y avait deux grands pans chronologique qui avait été étudiée, et encore pas tant que ça finalement. C'était d'abord la Renaissance, avec l'idée que la signature avait émergé au moment de la Renaissance, et c'était ce numéro collectif dont Étienne parlait tout à l'heure, dans la Revue de l'Art, mais il y a aussi toute une série d'ouvrages importants hein, sur la signature et la Renaissance. Puis ensuite, l'autre moment, c'est le grand moment romantique, le nom s'est imposé, en fait, dans l'histoire du tableau. Il est là, en bas à droite, en bas à gauche, souvent, et il y a une forme de banalisation du nom dans l'espace pictural. Et moi, ce qui m'intéressait, justement, c'était de dénaturaliser cette sorte de vision linéaire qu'évoquait Étienne. En gros, on aurait... Étienne a bien montré là que c'était complètement faux, mais avant son travail, et le travail d'autres gens, comme Donato, Albert Dietel, aussi sur l'époque médiévale, on considérait que le monde médiéval était un continent d'œuvres non signées. Hein, et là, la Renaissance arrivait, et on avait la figure de l'auteur, etc. Il y avait cette vision un petit peu téléologique, l'affirmation linéaire de l'auteur et de l'artiste. Et moi, je me retrouvais pas tellement dans cette idée-là, dans la mesure où, si on s'intéresse aux pratiques de signature pour le XVIIIe siècle, et si on prend comme référence les pratiques artisanales, et je crois qu'on a bien compris qu'en fait, dans le monde de la peinture, ce qui est important, c'est pas de se considérer déjà dans un espace libéral, un espace en sens d'art libéral, la peinture comme un art libéral, comme la littérature, etc. Mais on est encore dans un espace de l'artisanat, et même au XVIIIe siècle. Il faut savoir qu'il n'est pas juridiquement obligatoire d'apposer une marque ou un nom sur un tableau, alors que c'est quelque chose qui est obligatoire dans d'autres corporations et dans des corporations qui concernent des objets, je dirais, de luxe. La menuiserie, par exemple, l'orfèvrerie, l'usage du poinçon, de la marque et du nom de l'auteur. On a souvent deux marques distinctives, la marque de la corporation et la marque du nom, avec des artistes artisans extrêmement reconnus, extrêmement valorisés d'un point de vue aussi économique. Ce sont des pratiques tout à fait instituées au XVIIIe siècle. Alors que la signature dans le tableau, si vous voulez, ça s'est imposé comme une sorte de... de par l'oral du nom, si vous voulez, une sorte d'évidence du nom dans le tableau, alors qu'en fait, l'artiste n'a jamais eu juridiquement d'obligation à imposer son nom. Et donc, ce qui apparaît à nouveau, c'est un espace des possibles. Pourquoi inscrire son nom dans le tableau alors même qu'il n'y a pas de cadre coercitif fort? Et donc ça, c'est intéressant, je trouve, parce que voilà, on a un espace de liberté, en fait, et qui va être investi par le peintre ou la peintre, un espace donc qui va être investi et qui va devenir aussi un espace de jeu pour les artistes dont je m'occupe. Donc voilà, donc c'était à la fois pour le XVIIIe siècle restituer cette histoire avec la liberté qu'elle comporte, donc on pourrait dire l'agency là, du peintre, et en même temps la réinscrire dans une histoire beaucoup plus large. On parlait d'interdisciplinarité, qui est celle, bien sûr, et je vais juste reciter ce que tu disais, hein, l'histoire de l'auteur, parce que bien sûr que l'histoire de l'auteur elle est importante dans cette histoire-là, l'histoire de l'identité, des papiers d'identité. La forme du nom dans le tableau va reprendre des formes d'identification des individus. Bon, je ne vais pas le développer aujourd'hui, mais il faut quand même l'avoir comme horizon. L'histoire du sujet, on sait que le XVIIIe siècle, alors là pour le coup il y a vraiment une histoire de la subjectivation, la naissance d'une intériorité. C'est ce qu'a montré par exemple Charles Taylor à propos de Jean-Jacques Rousseau, hein, il y a tout d'un coup une intériorité, hein, dans la personne, et donc là, j'espère que on va peut-être le voir avec certains de mes peintres, le nom est travaillé par cette intériorité, et j'espère en donner la preuve, même si là on est dans un espace interprétatif, et que donc il faut donner la preuve. Et enfin l'histoire du tableau, là c'est une histoire très matérielle. Pourquoi apposer son nom sur un artefact? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de matérialité? Et pourquoi? Parce que voilà, ce qui est important, c'est que pour la période dont je m'occupe, au XVIIIe siècle, évidemment, c'est le nom. On est dans un moment, alors là, juste très rapidement, où les œuvres commencent vraiment à circuler, avec la naissance d'un marché secondaire élargi, c'est-à-dire c'est l'apparition des ventes aux enchères à grande échelle. Donc des tableaux qui avaient été commandés. Alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis quand il n'y a pas de marché. Il y a un marché pendant très longtemps, mais c'est un marché de la commande. C'est un marché. Bon, on peut, voilà, ça c'est un objet de débat. Mais voilà, moi il y a un marché.
Pas de marché des œuvres.
Ouais, pas de marché des œuvres, il y a un marché des artistes alors à ce moment-là. Mais en fait au XVIIIe siècle, il y a le développement d'un marché secondaire et donc une perte. De la provenance. La provenance, elle peut faire problème. Et donc, du coup, apposer son nom sur une œuvre lorsqu'elle circule dans un espace secondaire, donc sur les ventes publiques, ça va donner du prix à l'œuvre. Il y a un rapport important entre attribution et estimation. Voilà. Donc ça, c'est, les différentes histoires que convoque cette histoire de la signature. Je n'évoquerai pas tout ça, mais voilà, dans le cadre un petit peu dans lequel on se situe. Alors, après avoir fait ce panorama un peu général, je vais tirer un fil qui, j'espère, va permettre de croiser certains des enjeux que j'ai évoqués. Alors, pour commencer, je voudrais partir donc de ce tableau d'Hubert Robert. Alors, Hubert Robert est un peintre donc, qui a eu son exposition l'année dernière au Louvre, grande exposition monographique tout à fait considérable et importante. Et ce fut l'occasion de redécouvrir notamment cette peinture. Donc vous savez, Hubert Robert, peintre des Lumières, peintre que Diderot avait surnommé le peintre des ruines. Et ici, Hubert Robert peint donc un paysage avec les bergers d'Arcadie. Donc c'est un tableau qui est peint en 1789. Et de manière très claire, Hubert Robert ici dialogue avec un autre tableau qui était alors conservé dans les collections royales. Alors ça, je vais revenir après sur la signature, pardonnez-moi. Ici, Hubert Robert dialogue très explicitement, hein, il fait référence et il rend hommage à ce tableau de Nicolas Poussin, « Les bergers d'Arcadie », donc peint aux alentours de 1640. Alors pourquoi est-ce que ce tableau, enfin pourquoi ce dialogue est-il intéressant pour moi? D'abord, il faut savoir que Hubert Robert connaissait, de manière intime, enfin en tout cas familière, ce tableau. Donc, il y a une intimité avec l'œuvre, pourquoi? Parce que Hubert Robert était le garde de la collection royale à Versailles. Et donc, il connaissait très bien l'état. Il avait la garde de ce tableau en particulier. Donc, il le connaissait très bien. Ce tableau était déjà fameux, notamment pour l'inscription qu'il portait, même si Panofsky et Louis Marin n'avaient pas encore écrit dessus. Donc, inscription que vous connaissez, hein, « Et in Arcadia ego » et que le berger désigne ici du doigt. Ce qui est très intéressant dans le tableau d'Hubert Robert, c'est qu'il reprend l'inscription de Poussin. Une inscription, un véritable concerto, c'était une inscription nouvelle qui avait été inventée pour ce tableau-là. Donc là, je vous invite à lire l'article notamment de Panofsky. Donc Robert reprend l'inscription de Poussin et il la transforme de deux manières, dans la forme et dans le fond. Donc d'abord le et in Arcadia ego, memento mori, un peu énigmatique, hein. Que veut dire Poussin dans ce concetto? Le et in Arcadia ego devient et ego pastor in Arcadia, et là il signe, alors évidemment, comme dit Étienne, on n'y voit rien, comme dit aussi en fait la signature, comme, voilà, petite citation d'Adèle Larat, H. Robert, 1789. Donc, alors ici c'est très intéressant parce que, évidemment, Robert cite Poussin, mais on perd l'aspect énigmatique du memento mori. C'est-à-dire que, si vous voulez, Poussin ne signait pas son œuvre. Hein. C'était, cette inscription-là restait suspendue. Comment la traduire, comment l'interpréter, c'était ouvert. Robert cite l'œuvre, mais il signe. Donc, voilà, perte. Là, il se met dans l'œuvre, il se met au cœur de l'œuvre. Son nom est désigné par le petit berger plaisant qu'on voit au bas. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la manière dont il signe. Les signatures, la signature ici, les lettres, elles sont tracées de manière tremblée, de manière touchée. Rien à voir avec l'inscription beaucoup plus rectiligne de Poussin, qui renvoyait à un autre type de culture épigraphique. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, Robert montre d'abord qu'il a une culture humaniste très poussée. Il sait inventer une inscription latine. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas commun. Voilà, DM et ego pastor in Arcadia H. Robert 1789. Bon, c'est pas très lisible. C'est le problème des signatures, mais ça, on pourra en parler dans la discussion. C'est qu'en fait, ce travail sur les signatures, il est rendu possible aussi par les nouvelles techniques de l'image et de grossissement des œuvres. Moi, quand j'ai commencé à travailler, c'était parfois très difficile de voir les signatures, tout simplement. Donc, bref, Robert montre une culture humaniste très, très développée. Hein. Il a été au Collège de Navarre, donc il a une formation de jésuite. Donc ici, Robert dialogue avec les savoirs épigraphiques de la tradition classique. Il témoigne de la maîtrise qu'il en a, mais il s'en amuse aussi. C'est-à-dire qu'il a un rapport ludique à la culture. Et surtout, la manière dont il trace les lettres est extrêmement désinvolte. On est très loin de la monumentalité, de l'atemporalité, de l'impersonnalité des lettres de Poussin. Robert met en scène le mouvement de la touche et du pinceau sur la toile. Et ça, c'est quelque chose qui est caractéristique de toute l'œuvre de Robert. Alors, un autre exemple, je suis désolée, voilà, c'est très compliqué de prendre des photos. Deux exemples de signatures touchées, tremblées. Un tableau conservé à Paris, au musée Cognacq-Gel, à Brevoir, La Fontaine, où on voit toujours ces lettres qui sont. Les inscriptions sont justes d'un point de vue latin, mais les lettres sont tracées avec beaucoup de rapidité, de désinvolture. En écrivant son nom ainsi en lettres capitales, mais personnelles et tremblées, à travers toute son œuvre, car Robert signe beaucoup, il se met dans ses œuvres, il se place dans ses ruines, Robert nous dit sa présence personnelle, matérielle à la toile. En désignant ainsi la manière qu'il a de poser la touche, si vous voulez, il met en scène une idée, c'est que c'est lui qui a exécuté et matériellement peint ce tableau. C'est lui qui pose la touche sur la toile. En signant de cette manière, vous voyez là les lettres un petit peu, comment elles sont touchées. En tout cas, c'est la manière dont Diderot décrivait les toiles de Robert, hein, et même il lui reprochait son caractère esquissé, mais ça, c'est l'objet ça peut être l'objet d'une discussion aussi. En inscrivant son nom de cette manière-là, Robert affirme ce que j'appelle le statut autographique de la toile. Il affirme sa présence à la toile. C'est ce que j'appelle la conception autographique de la peinture. Alors, qu'est-ce que j'entends par autographie? Alors, j'ai pris cette notion, j'ai importé cette notion chez deux auteurs. Un auteur que ce sont plutôt les philosophes, les historiens de l'art connaissent, Nelson Goodman, philosophe, linguiste, qui a écrit en 1968 un ouvrage qui s'appelle « Langage de l'art ». Ouvrage traduit en 2005, et dans son livre, il oppose les arts autographiques, comme la peinture, aux arts allographiques, comme la musique et la danse. Et il dit, enfin, cette idée que, voilà, la peinture serait un art autographique. Moi, je voudrais historiciser cette idée-là, en disant que, oui, sans doute, aujourd'hui, la peinture est considérée comme un art autographique, mais ça a une histoire. C'est-à-dire que lorsque Étienne décrit les tableaux de Giotto, l'importance, la valeur autographique du tableau n'est pas centrale, si vous voulez. Ce qui compte, c'est le nom, c'est la qualité, mais peu importe que ce soit Giotto qui a réalisé lui-même matériellement le tableau. Enfin, en tout cas, peu importe, ça peut se discuter, mais ce n'est pas forcément central. Alors que peu à peu, quelque chose va s'imposer et qu'on appelle, enfin que j'appelle une conception autographique de la peinture. Et je pense que, en gros, au XVIIIe puis au XIXe siècle, c'est là que se joue quelque chose. L'autre auteur à qui j'ai emprunté cette notion d'autographie, c'est l'anthropologue Béatrice Frankel, qui montre combien, à travers alors une histoire qui est autre, hein, qui est celle de l'authentification, pour le coup, par les marques personnelles, va se développer cette conception autographique de l'authentification et de l'individu. Et elle montre que le tournant, c'est le XVIe siècle, avec l'importance de plus en plus grande de la signature autographe, c'est-à-dire que pour authentifier un acte, eh bien, on a besoin d'une signature autographe, d'un témoin, etc., etc. Donc là, je vais très vite, mais voilà. Donc en gros, on a ces outils. Enfin, moi, j'avais ces outils-là pour penser une histoire qui serait celle, une histoire de l'autographie en peinture. Alors, cette autographie en peinture, c'est un peu une sorte de lieu commun. À l'origine, hein, on pense que c'est le peintre qui a signé la toile, à qui on a attribué la toile ou le panneau, qui a réalisé l'objet. Moi, mon idée, c'est comme je un petit peu un des enjeux de mon travail, c'est de montrer que voilà, il y a un durcissement, on va dire comme ça, de l'authenticité qui s'exprime à travers l'autographie dans l'histoire de la peinture et du tableau, et que le XVIIIe siècle, puis le moment romantique, le XIXe siècle, sont des moments importants. Alors juste là, j'ai pris cet extrait de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu, 1831, donc on est un peu après ce que j'évoque. Et ce que je trouve très beau, c'est cette mise en scène justement du peintre à sa toile, c'est-à-dire que qui aujourd'hui s'est imposée comme une conception commune en fait, tout en parlant l'étrange vieillard touché à toutes les parties du tableau. Pardon, il y a une faute. Ici, deux coups de pinceau, là un seul, mais toujours si à propos qu'on aurait dit une nouvelle peinture, mais une peinture trempée de lumière. Là, alors la peinture est trempée de lumière, il y a la sueur. Voilà, on aurait dit, hein, il y a un démon qui agissait par ses mains, etc., etc. Donc, si vous voulez, paf, 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 allons donc, pom, pom, pom. Bref, ici, ce qu'on voit, c'est cette conception que c'est la présence physique, la coprésence d'un artiste à son œuvre. Et voilà, ça, c'est le résultat d'un long, long processus dont je voudrais éclairer quelques-uns des moments. L'idée que le tableau, en tant qu'artefact, va condenser en lui, dans sa matérialité, la présence de son créateur. Dès lors, le statut de la signature va se compliquer. Faisant traditionnellement fonction de marque, notamment de marque autoriale, j'y reviendrai, la signature devient aussi une trace autographe et incorporée de l'artiste dans son œuvre. Longtemps, la signature du peintre avait été conçue et étudiée comme une marque d'atelier, un certificat de qualité qui disait peu en réalité de celui ou celle qui avait concrètement exécuté l'œuvre. Désormais, la signature se charge de valeurs nouvelles qui participent à l'évaluation et au regard qu'on va porter sur la toile, sur le tableau. Elle exprime le génie de la main qui a peint le tableau. Alors, une telle valorisation, sur laquelle je vais revenir, hein, ça va être l'objet de mon intervention, une telle valorisation de l'autographie et du geste dans l'Europe du XVIIIe siècle entre en tension, bien sûr, avec l'organisation traditionnelle des grands ateliers artistiques qui sont, eux, héritiers de l'âge renaissant et médiéval. Dans cette formule de l'atelier, donc dans cette organisation traditionnelle du travail artistique, on a des mains multiples et souvent anonymes, des élèves, des assistants, des collaborateurs qui travaillent avec le maître et qui travaillent en son nom. Il y a toute une série encore au XVIIIe siècle, et même au XIXe, et même au XXe, et même au XXIe siècle, de grands ateliers d'artistes, hein, qui reposent en fait sur cette organisation du travail, la séparation des tâches, etc. Donc l'idée, c'est qu'en fait, ce que je voudrais montrer, c'est que il y a deux régimes d'authenticité qui vont commencer à coexister et qui peuvent entrer en concurrence. D'une part, un premier régime qui repose sur l'autographie, le faire inimitable de l'artiste, sa présence physique au tableau, et on en a ici un commentaire, on a un commentaire ici de Balzac sur cette conception-là. L'autre conception, l'autre régime d'authenticité, c'est un régime du nom et de la marque. Et à mon sens, tous deux sont aux sources de l'art moderne. S'y croisent le mythe du génie créateur, celui du marché de l'art, deux choses qui peuvent paraître antinomiques. Moi, j'essaie au contraire de travailler à la confluence. D'autre part, l'authenticité de l'œuvre, unique, inimitable, et de l'autre, celle de la marchandise. Et là, c'est la marque. L'idée, mais je ne vais pas la développer aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut avoir un Chardin, par exemple, si on prend un artiste sur lequel j'ai beaucoup travaillé, un Jean-Baptiste Chardin, un artiste du XVIIIe siècle, on a à la fois un Chardin, un tableau unique, inimitable, qui est celui du maître, et en même temps, c'est un chardin parmi d'autres. Et on veut retrouver dans ce tableau-là des caractéristiques qu'on trouve dans les autres œuvres du maître. Donc, des choses qui peuvent paraître paradoxales, contradictoires, mais qui, en fait, sont imbriquées dans cette histoire-là. Alors, juste, je vais reprendre le fil de l'histoire où tu l'avais laissé, peut-être. Je ne suis pas très sûre de ne pas avoir... Voilà, l'essor de l'autographie en peinture. Un exemple, mais bon, du coup, on est vraiment là dans la ligne de ce qu'Étienne expliquait. Contrairement aux conceptions communes et ordinaires, mais je pense qu'elles vont l'être maintenant, ça va devenir un lieu commun, que de dire qu'un tableau n'est pas nécessairement exécuté matériellement par celui qui en revendique la responsabilité auctoriale. C'est ça l'idée. Hein, un tableau n'est pas forcément... En fait, il faut distinguer deux histoires, l'histoire de l'auctorialité et l'histoire de l'autographie. Un exemple ici d'un tableau qui est conservé au Louvre, donc c'est très pratique pour moi. Raphaël, dont on sait qu'il a très peu signé d'œuvres, là je m'appuie sur le travail d'une des spécialistes, Anne Jensen Adams, 14 toiles sur 156, enfin quand je dis toiles, excusez-moi, c'est vraiment inapproprié, je devrais dire panneaux, 14 tableaux, et encore, c'est pas toujours des tableaux, mais des objets, 14 objets signés sur 156. Celui-ci est signé, Raphaël Urbinas, sur le modèle évoqué par Étienne, et pourtant, on sait que ce n'est pas lui qui l'a réalisé matériellement. C'est l'un de ses assistants les plus importants, Giulio Romano. Ici, un tableau qui montre bien comment il faut disjoindre l'histoire, souvent confondue en peinture, de l'auctorialité et celle de l'autographie. Ce type de pratique allographique de la peinture... était particulièrement répandu, notamment dans les ateliers vénitiens. Je parle ici de l'époque renaissante, en gros 15e, 16e siècle, qui avait un usage neuf et intensif de la signature. Je pense en particulier là aux ateliers de Jacopo, puis Giovanni Bellini, des Vivarini, etc. Alors là, je ne vais vraiment pas développer. Il y a eu un travail considérable qui a été fait sur la signature à Venise à cette époque, notamment à la confluence avec l'histoire de l'imprimé et la figure de l'auteur, puisque Venise est un grand centre de production de l'imprimé et d'innovation aussi en termes vraiment... Alors là, on est dans l'histoire de l'écriture et des formes et de la tradition, de la police, imprimée. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ces années fin 15e, début 16e. Ce qui est très intéressant, c'est que Bellini appose sa marque d'atelier sur des panneaux, des tableaux qu'il n'a pas réalisés lui-même de sa main. Pourquoi Venise, une historienne de l'art, Louise Massieu, a montré que c'est parce que ces objets, ces artefacts, étaient exportés. Donc, contrairement aux œuvres qu'évoquait Étienne, là, il y a quelque chose qui se perd déjà, c'est-à-dire qu'elles sont exportées au loin. Donc, une vierge comme ça, à l'enfant, était exportée un peu loin, et donc, la marque de Bellini fonctionnait non pas comme une marque d'authentification, mais comme une marque de provenance et de qualité. C'était la marque Bellini. C'est un label de l'atelier. Donc ici, déjà, le nom du peintre fonctionne doublement. Il est un indicateur de qualité et de provenance, et il est aussi un label de l'atelier, comme je le disais. Le nom, je brosse un panorama un peu général pour essayer de comprendre comment on peut aborder une typographie des fonctions de la signature sans être non plus trop téléologique, etc. Donc, pas de fonction nécessairement auctoriale dans ce Bellini. Ce qu'il y a, c'est la marque d'atelier qui prédomine. En revanche, dans ce tableau de Titien, et la signature est ici apposée de manière extrêmement individualisée, personnelle, nouvelle, le nom de Titien est apposé sur la pantoufle de Lucrèce en lettres rouges, Titianus F, pour Fécit. Ici, Titien place son nom dans la toile. Il se place. Donc, il se place aussi lui-même. Donc, ici, il met en scène... quelque chose qui n'est pas juste, si vous voulez, de l'ordre de la marque d'atelier. Il se place de manière inventive, de manière personnelle. Cela veut dire qu'il affirme la singularité d'une figure auctoriale. quand bien même le tableau n'est pas nécessairement réalisé de sa main. Et j'insiste là-dessus, parce que Titien avait une manière de peindre, évidemment, qui était extrêmement singulière, mais qui était partagée par les membres de son atelier. Et Titien était connu pour diriger un atelier dans lequel il ne réalisait pas forcément lui-même toutes ses toiles. Et un de ses contemporains parlait de Titien en disant qu'il il terminait souvent, il mettait la touche finale à ses toiles comme le sucre sur le gâteau. Voilà, il zucchero sopra la torta. Donc vraiment, c'était quelque chose de connu. Hein. Titien pouvait signer une toile qu'il n'avait pas lui-même réalisée de sa main. Et n'empêche qu'il revendique la responsabilité auctoriale en se plaçant de cette manière-là. Donc là, vous voyez comment, c'est assez complexe, et ça peut être l'objet d'un débat, on a différents types de fonctions de la signature qui apparaissent entre marque d'atelier, fonction auctoriale et valeur autographique. Les signatures donc de Titien n'ont pas nécessairement de valeur autographique pour la bonne raison que ces peintures reposaient souvent, et là je m'appuie sur les travaux des spécialistes, sur des collaborations entre le maître, les élèves et les assistants. Mais ceci n'affectait pas l'estimation économique des œuvres. Ce qui était important, c'était que les employés de l'atelier, et même son fils, Orazio, devaient peindre selon la manière du peintre. Et là, les contrats le stipulaient très clairement. Le fils Orazio devait reproduire, il avait la délégation de la main du maître. Et ensuite, on pouvait apposer le nom sur la toile. Bien sûr, au XVIIIe siècle, cette fonction auctoriale du nom ne disparaît pas, ni même la fonction de label. Au contraire, elle va se développer dans le contexte d'un marché de la peinture structuré par le nom du peintre. Mais elle va s'enrichir d'une nouvelle fonction, et c'est un peu l'idée de ce que je voudrais développer aujourd'hui, c'est que la signature autographique... oui, bon, là, c'était un exemple... Je vais aller un peu plus vite. La signature autographique engage désormais la présence de l'artiste à sa toile. Elle met en scène la performance de son geste singulier et elle se présente, comme je le disais, comme trace incorporée dans l'espace même de la représentation. Alors, je vais prendre un exemple de cette valorisation de l'autographie en peinture qui va se manifester à travers l'exagération du geste pictural. Et je vais prendre un exemple qui est l'exemple d'un peintre important pour ma période qui est Fragonard, qui a lui aussi eu droit à son exposition l'année dernière. Donc Fragonard, c'est un peintre qui a une carrière au début académique et qui va très vite se tourner, il ne va pas être reçu complètement à l'Académie royale, il va se tourner vers le marché privé de la commande. C'est-à-dire qu'il ne va pas vouloir des commandes royales, il va faire un choix de carrière hors des sentiers officiels. Et il va développer une manière de peindre qui va être extrêmement critiquée, justement, qui va répondre, en fait, aux attentes de ses commanditaires privés, de ses amateurs. Cette manière de peindre est très critiquée, notamment, alors là, j'ai pris un exemple d'une critique de l'époque, Dialogue sur la peinture, publié chez Tartouilly, vous voyez tout de suite ce qu'on lui reproche, en 1773. Ce qui est bien avec le XVIIIe siècle, c'est qu'on s'amuse aussi un petit peu. Voilà. Monsieur Rémy, c'est un des marchands les plus importants du XVIIIe siècle. Donc on voit bien que ce qu'on reproche à Fragonard, c'est aussi son insertion dans un marché de la commande de plus en plus élargi, et pas seulement de rester cantonné dans les sentiers bien battus et bien balisés de la commande royale. Vous avez vu à Louveciennes, donc c'est Louveciennes, le nec plus ultra pour le heurter, le rouler, le bien fouetter, le tartouiller. Le voilà, le véritable tartouiller, c'est du divin fragre. Donc là, son importance dans ce que je vais vous expliquer, donc abréviation du nom dont je parle, le pinceau le plus capital selon les chefs de notre peinture, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que donc dans cet extrait, on reproche à Fragonard une touche qui n'est pas finie, qui est à distance d'une manière académique de peindre, très proche d'ailleurs de Rembrandt, mais bon, ça c'est autre chose, mais c'est intéressant aussi. Or, dans ces signatures, Fragonard, que donc on appelle Fragre dans cet extrait-là, qu'on appelle aussi Frago dans d'autres sources, va mettre en scène dans sa signature ce jeu de l'esquisse, de la touche inaboutie, si vous voulez. Alors là, je prends un exemple. Bon, comme d'habitude, voilà, c'est compliqué de voir. Un tableau qui est au Louvre et qui est signé. Alors là, c'est une image que j'ai prise à une image de restauration, et c'est là où l'aspect matériel des toiles est vraiment très important pour voir les signatures. Le tableau est signé là. En fait, il est signé Frago. Frago. Deuxième tableau. Autre photo de restauration, Autre tableau, hein, portrait de jeune artiste, et là, c'est dans la peinture, dans la picturalité même, que Fragonard signe. On est très avec Hubert Robert, Fragonard signe dans la pâte. Hein. C'est le roulis, le heurté, le fouetté dont parlait notre ami Tartulli. Et là, ça devient illisible. On ne sait pas ce qu'il signe, mais on ne sait pas. On peut aller voir la vraie toile, la photo. Vous voyez là, Fragogo avec deux G, Fraogo, on ne sait pas. Et c'est fait exprès, c'est en grosses lettres. Vous allez voir le tableau au Louvre, on ne sait pas. Troisième tableau, portrait d'une jeune femme en costume espagnol. Et là, vous voyez, enfin, vous devinez, parce que vous êtes avec moi, Fragao. Donc, une orthographie complètement instable de la signature, qui montre quoi? Qui montre que Fragonard s'amuse de son nom. S'amuse de son nom de manière tout à fait réflexive et ludique, comme Robert, dans un registre complètement différent. Pourquoi? Fragonard peint ses toiles pour un cercle, ce sont ses portraits de fantaisie. On en a 18 au total. Ce sont des portraits qui étaient destinés à des amateurs extrêmement avertis, extrêmement savants, extrêmement connaisseurs. Tous savaient qu'ils commandaient une toile à Fragonard. Donc, comme le disait Étienne, dans un autre registre, pas besoin. Là, ici, ce n'est pas le problème de l'authentification de l'attribution. On sait très bien qui a peint ce tableau. Donc, pas besoin de mettre une marque. Ici, la valeur, ce n'est pas celle de la marque. C'est la valeur du geste, de la performance. Et l'un des portraits de fantaisie, d'ailleurs, est dit comme ayant été peint en moins d'une heure de temps. Ce qu'on met en valeur, c'est le geste, la performance du peintre à sa toile. Et Fragonard s'amuse du regard de l'amateur qui, au XVIIIe siècle, cherche le nom de l'artiste. Autrement dit, il sait que son amateur va chercher le nom, va s'approcher, et ensuite il bute sur un nom instable, sur un nom seulement esquissé, comme sa touche. Et donc là, on est vraiment, à mon sens, au cœur de ce qui se joue là au XVIIIe siècle. Et donc, là encore, il faut bien comprendre, Fragonard a été pris comme un peintre extrêmement ludique, libertin, libertinage de sa touche, oui, tout cela est vrai, mais il y a aussi une grande réflexivité sur ce qu'il fait, un grand savoir. Donc, j'insiste là-dessus. Ici, selon moi, et là je reprends le vocabulaire du sémioticien Charles Peirce, la signature a une qualité représentative. Elle devient l'icône du faire de l'artiste. Ça, c'est vraiment, il y a une confluence là entre ce que les historiens de l'art, mais je déteste cette formule parce qu'elle court-circuite la réflexion, le style, alors même que le style est fabriqué par l'artiste, mais elle court-circuite, donc là, Fragonard court-circuite le style et le nom. Voilà, il signe comme il peint. Voilà. Juste très rapidement, évidemment, cette valorisation du geste et de la performance à la peinture, c'est le résultat d'une longue histoire. Comment en est-on arrivé à cette valorisation d'une peinture autographique? La main de l'artiste, comme celle de l'auteur, et là je renvoie aux travaux de Roger Chartier, tout récent, enfin son dernier ouvrage, La main de l'auteur. Voilà. La main de l'artiste donc prend une place nouvelle dans la littérature artistique au XVIIIe siècle, contre l'intellectualité du concept de disegno, le dessin avec un E, donc l'idea, si vous voulez, qui triomphait au XVIe siècle et qui faisait de la main une extension sublimée et spiritualisée de l'esprit. Autrement dit, la main ne devait être que l'extension de l'idée. D'accord ? Il fallait que les traces du fer disparaissent. Ce que la main devait donner à voir, c'était l'idée. Eh bien, au XVIIIe siècle, c'est le contraire. Il y a une valorisation progressive du travail de la main, valorisation à laquelle, par exemple, la publication d'ouvrages comme l'encyclopédie, la requalification des savoirs artisanaux de l'artisan au XVIIIe siècle n'est pas étrangère. Et donc, du coup, la main n'est plus seulement la métaphore d'un esprit créateur, elle va désigner la matérialité d'un travail pictural. Et elle va être, à ce titre, valorisée. Alors, je vais passer sur ce dessin parce que je n'ai pas le temps de le commenter. Mais on voit très bien, ce qui est très intéressant, c'est que voilà, on voit une main qui en dessine une autre. Et cette main, ce n'est pas une main d'homme de lettres. Hein, on l'a appelée d'ailleurs la main de Michel-Ange, même si ce n'est pas vrai, même si ce n'est pas le cas. Hein, elle montre la puissance physique, le travail à l'œuvre. Et évidemment, elle a fait l'objet de toute une série de collections de savoirs au XVIIIe siècle. Elle est aujourd'hui au Louvre, évidemment. Elle a un pédigré impeccable. Et au XVIIIe siècle, elle était extrêmement recherchée parce que précisément, elle exprimait quelque chose de nouveau pour l'époque. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, et là je vais revenir sur ce que tu disais peut-être, sur l'ut pictura poesis, cette histoire de l'ut pictura poesis, qui est l'histoire humaniste de la peinture, quand même, fait aussi un peu de mal à cette histoire-là, puisque justement, elle a complètement mis de côté la matérialité, le faire, ce qui était... L'important, c'était l'idée, quoi. Eh bien, au moment même où la peinture s'affirme comme un art libéral, dans les sources théoriques, c'est-à-dire que la peinture est reconnue comme un art libéral, c'est plus un art mécanique, eh bien... Et que donc elle s'affirme à l'égal de la littérature, dans la hiérarchie des arts, en gros, c'est tout le travail de l'époque moderne, eh bien, il y a aussi cette reconnaissance du fait, c'est-à-dire une sorte de chiasme. C'est-à-dire que, si vous voulez, elle va être reconnue comme un art libéral, va lui être reconnue une forme d'autonomie dans le champ des arts. Cette autonomie va lui être accordée par le biais de la matérialité. En fait, c'est-à-dire que au moment même où elle se hausse au rang d'art, au même titre que la littérature, ce qui va fonder son autonomie picturale, c'est qu'il va y avoir un discours spécifique sur la touche, sur le médium pictural lui-même. Est-ce que je suis claire ? Parce que c'est un peu, vous voyez, ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, au moment même où la littérature est reconnue dans les sources comme, théoriques comme un art libéral, eh bien, ces sources-là insistent sur la spécificité de son faire, et ça ne va plus être la composition, pas seulement la composition formelle, l'importance des récits narratifs dans la peinture, mais ça va être une nouvelle source, un nouvel objet du discours pictural, c'est la touche. Voilà. Et donc là, on a plein de sources sur la touche en peinture au XVIIIe siècle. Et là, juste un exemple chez cet auteur. Non, je me suis trompée, c'est pas ça. Mais en gros, voilà, un coup de pinceau, une seule touche d'arbre dans un tableau découvre son auteur. C'est-à-dire que le coup de pinceau, qui est une formule nouvelle vraiment à cette époque, qui se développe comme pinceau inimitable, coloris inimitable, tout ceci se développe au moment même où la touche est conceptualisée comme un lieu de l'individualité artistique et du style de l'auteur, comme on l'a vu chez Fragonard, par exemple. Voilà. À ce moment-là, on commence à s'intéresser, si vous voulez, à la fabrique, à la matérialité de la peinture. Et ce qui est très intéressant, mais je ne vais pas développer, c'est que apparaissent les premières sources sur le repentir dans le tableau. C'est-à-dire qu'on a, on s'intéresse de plus en plus aux traces matérielles de la fabrique du tableau dans les sources. C'était l'objet de cette citation, le pentimento, mais bon, j'y reviendrai. Alors bon, je ne vais pas développer. Voilà, on a cette conception autographique matérielle idiosyncrasique de l'artiste à sa toile, et parallèlement, on a cette histoire du nom qui se développe et de l'attribution dans un contexte élargi du marché de l'art. Et le XVIIIe siècle, c'est aussi la publication des premiers dictionnaires de monogrammes, de signatures, avec cet ouvrage, hein, publié, enfin traduit en 1750, traduit de l'allemand, par Johannes Christ. Voilà, donc deux conceptions, celle du nom, donc vous voyez là ce dictionnaire qui rencontre des signatures, avec les premiers facsimilés de signatures, dans un contexte du marché, hein, en quelque sorte, correspond finalement à ce que j'ai dit, deux modalités différentes du nom, la trace autographe et le nom comme marque ou comme signe d'autorialité. Et je voudrais juste prendre un dernier exemple, voilà, toujours cet ouvrage-là, où on voit vraiment les facsimilés là, de signatures qui apparaissent dans un contexte du marché. Alors, juste, en fait, je voudrais étudier cette... très vite, là, en fait, du coup, parce que je pense que je suis déjà... On va laisser un peu de temps pour la signature, mais à travers l'œuvre de David, en fait, montrer comment ces deux régimes d'authenticité coexistent, et ou pas, ou entrent en concurrence, en fait. Parce qu'évidemment, même si je cherche à pointer cette histoire de l'autographie, je ne veux pas m'aveugler. Il y a aussi toute cette histoire-là du nom, de l'atelier, qui continue à animer l'histoire de la peinture. Alors, pourquoi je prends David ? Parce que David, c'est un peintre important pour la signature. C'est à propos de lui que Stendhal, dans son journal, va nous offrir la première scène de signature d'un tableau, à ma connaissance, dans la littérature française. C'est-à-dire qu'il raconte comment il a vu David signer sa toile. Donc, c'est la première scène de signatures que j'ai pu débusquer. Mais si vous en connaissez, qu'ils soient antérieurs, je serais heureuse de les connaître. Donc là, je viens de voir peindre David. C'est un recueil de petitesses et sur la manière de tracer son nom et sur la différence d'un peintre d'histoire à un peintre en miniature, etc., etc. La comtesse Daru, donc ça c'est le tableau dont il parle en fait, attendait David. Il a signé le tableau à 4h sonnante le 14 mars 1810. Donc vraiment, là, ici, la signature, elle est vraiment mise en scène hein, dans ce petit récit de Stendhal, dont on voit d'ailleurs que Stendhal, qui avait d'autres jeux de noms, puisque lui, il était plutôt dans le pseudonyme, lui, il trouve que signer sa toile, eh bien, c'est plutôt la marque d'un petit peintre de miniature que celle d'un peintre d'histoire. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout...
Ce petit test, là, ça veut dire quoi?
Ben, c'est-à-dire que, en fait, il trouve que c'est expression d'une vanité du peintre, de tracer ainsi son nom sur la toile. Et ensuite, pourquoi j'ai laissé la suite de la citation, c'est que c'est quelque chose qui reviendra ensuite chez Stendhal, c'est que selon lui, un peintre d'histoire, David était peintre d'histoire, ne doit pas signer son travail à la star d'un peintre en miniature, et il fait la comparaison ensuite avec les accessoires que David emploie dans un autre tableau. Et donc voilà, en fait, selon lui, signer un tableau, ça relève plutôt d'un marché plus mineur d'objets. Voilà. Or, en fait, évidemment, David a un usage exorbitant de son nom. C'est un des peintres qui signait le plus à son époque. Et il était véritable peintre d'histoire. Alors, juste un truc rigolo. Chez David, le nom fonctionne d'abord comme marque auctoriale. Un petit peu dans cette longue histoire que nous avons donc évoquée aujourd'hui tous les deux, hein, qui remonte au moins au Moyen-Âge. David travaillait en véritable maître d'atelier, des élèves, des collaborateurs. Les toiles qui sortaient de son atelier n'étaient pas forcément autographiques, elles étaient toutes signées de son nom. Le serment des Horaces, dans sa version originale, celle qui est exposée au salon de 1785, elle a été réalisée en collaboration avec son étudiant Drouet. C'est ce que Thomas Croix a montré récemment. La toile est signée au pied du bas des Horaces. Il existe une répétition de cette toile qui est aujourd'hui conservée au musée de Tolède aux États-Unis. La toile, et elle a été réalisée par Giraudet, un autre de ses élèves. Les deux toiles, ça c'est la réplique à Tolède, les deux toiles sont signées au même endroit du nom de David. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est on a une pratique de signature dans un contexte allographique. On ne voit rien. Hein. Jacques-Louis David. Alors, les deux dates sont différentes. Le lieu de peinture est différent. Parisis et Rome, en fonction des deux lieux de création. Mais les deux toiles sont signées au même endroit, placées de la même manière. Donc ici, la signature fonctionne de manière classique comme marque auctoriale. Rien à voir avec cet autre tableau de David, qui est ici un portrait, Henriette de Verninac, où le tableau, alors ce tableau, il est achevé. Il est achevé, mais il est signé d'une manière vraiment tout à fait curieuse. Si vous allez au Louvre, la signature est énorme. En bas à gauche, elle est sale. Les lettres, voilà, on la voit là, et là je l'ai agrandie. David, Fassiebach, Anos. Si vous voulez, on voit le fer. D'abord, la signature, elle s'étale dans tout l'espace disponible. Et elle désigne quoi? Elle désigne la présence, peut-être même contre le modèle, de l'artiste à sa toile. C'est-à-dire aucun élève, aucun collaborateur n'aurait pu signer de cette manière. La signature ici, elle fonctionne comme trace autographe. Et elle dit quelque chose. Que dit-elle? Je ne sais pas. À mon avis, elle vient aussi dire la difficulté que David a laissé la place à un personnage, même son modèle. Il ne veut pas laisser toute la place à Henriette de Verninac dans son tableau. Mais si vous voulez, là, la signature, elle fonctionne autrement que comme marque. Elle fonctionne véritablement comme trace autographique. Elle affirme la présence de l'artiste dans la toile, alors même que le genre du portrait tend précisément à dissoudre la présence de l'artiste face à celle du modèle. Donc, à sa manière, cette signature témoigne du durcissement d'une conception autographique de la peinture. Donc, vous voyez qu'il y a ici deux conceptions différentes de la notion d'original. L'une est indexée à l'autographie, l'autre à l'auteur et à l'idée classique de l'inventio. A priori opposées, ces deux signatures invitent au redéploiement d'un espace de jeu pour comprendre, à mon sens, les différentes stratégies des peintres qui devaient à chaque fois choisir, lorsqu'ils sont devant, ils ont une commande, est-ce que ça va être autographe ou allographe? Est-ce que ça va être un tableau unique ou un original qui va être multiple, qu'on va repeindre ensuite, qu'on va répéter? Alors, a priori, on pourrait penser, je conclurai sur cette idée, que David a essentiellement réalisé des signatures qui fonctionnaient comme des marques auctoriales. C'est-à-dire que ce type de signature, autographe, est très rare dans son œuvre. Mais il est une toile importante pour laquelle, à mon sens, ces deux traditions confluent de manière tout à fait extraordinaire. Je vais aller très vite sur le tableau, je ne vais même pas... Vous connaissez ce tableau, qui est peint donc par David après la mort de Marat. Il y a dans ce tableau un jeu sur les écritures. Alors, ce n'est pas les épigraphies d'Étienne, mais attention, au siècle des Lumières, aussi on travaille, on est sérieux. Et les peintres avaient une conception extrêmement fine des savoirs de l'écriture. L'assignat, la lettre, soi-disant autographe, tachée du sang de Marat. La signature ici et la dédicace à Marat David. Ici, il y a un jeu sur les écritures, où il y a une sorte de télescopage des temporalités entre les écritures à l'antique, sur le panneau de bois, les écritures du contemporain, hâtives de Marat, etc. Là, il y a un jeu extrêmement savant de la part de David, et qui fait la contemporanéité d'ailleurs de la toile. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait dire, voilà, c'est vraiment le tableau d'atelier, etc. Et d'ailleurs, regardez, ah mince, je n'ai pas mis, attendez. Ah voilà. C'est pris dans un ouvrage, ce tableau a 4 répétitions. 4 répétitions qui vont être ensuite servir pour aller dans des lieux publics, etc. Simplement, dans les 4 répétitions, il n'y a pas une seule qui porte la signature et la dédicace de David. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, la conception, ici David, il peint une toile, il signe une toile qu'il a peint lui-même. Une toile qu'on lui a demandé en pleine séance de l'Assemblée nationale de peindre. Et là, je vous rappelle juste l'injonction du député. David, où est David? Prends ton pinceau. Il faut le prendre dans son sens plein. Prends ton pinceau. Là, c'est l'autographie. Il te reste encore un tableau à faire. Et donc, c'est David lui-même, en quelques mois, qui peindra ce tableau-là. Par la signature autographe, David est tout entier, en tant qu'artiste et en tant qu'homme politique. Qu'il est député au moment où il peint le tableau, et c'est pas rien pour un député d'exposer son tableau en pleine, d'abord dans la cour du Louvre, en pleine séance ensuite de l'Assemblée. Il est tout entier là, lui-même, dans ce tableau-là. Alors que dans les tableaux qui vont suivre et qui vont être réalisés par ses assistants, par ses collaborateurs, la signature a disparu, et là, on est sur une autre conception holographique de la peinture. Voilà, avec cet exemple, je voulais montrer comment ces différentes conceptions qui ont une histoire très longue pouvaient jouer, s'imbriquer et jouer un rôle dans l'interprétation de la toile. Parce que cette toile qui a été extrêmement commentée, même la signature a été commentée, il me semble que la dimension autographique, elle n'était pas encore vraiment soulignée. Merci beaucoup.